9h30 à Paris et à Tripoli, en Libye, 2h de moins à Abidjan. Et on vous retrouve, Édouard Dupénoat, pour l'actualité africaine.
Avec un journal qui rappelle à la une la catastrophe de Derna, c'était il y a un an. Un pan entier de cette ville de l'est de la Libye englouti sous les eaux lâchées par deux barrages. Deux structures trop faibles, mal entretenues, incapables de retenir les pluies diluviennes. Derna 2024, une cité en grande partie reconstruite, mais qui ne connaît pas encore toute la vérité. Les pluies et les eaux qui frappent l'ouest de l'Afrique encore depuis des semaines déjà. Niger, Tchad, Nigeria, Algérie, Maroc. Focus à suivre sur la Guinée dans quelques minutes. Les catastrophes ont fait au moins 4 morts. Un écart à Bruxelles pour l'actualité africaine. Ouverture du procès en appel pour les femmes dites métisses de la colonisation. Arrachées à leur mère dans les années 60 au nom d'une hypothétique promesse de bonne éducation, elles réclament que soit reconnu un crime contre l'humanité. Et puis à Madagascar, le poulpe revient en masse. Après 15 ans de gestion raisonnable de la ressource, les pêcheurs en remontent plein les filets. Il y a un an donc, la ville libyenne de Derna se réveillait amputée de quartiers entiers dans la nuit du 10 au 11 septembre 2023. Deux barrages cédaient sous les pluies diluviennes. Leurs eaux engloutissaient alors une partie de cette cité côtière. Un an plus tard, la ville a largement fait peau neuve, mais sans avoir complètement cicatrisé. Combien y a-t-il eu de pertes en vies humaines? Quelle était la chaîne de responsabilité dans l'entretien, dans la vétusté surtout des barrages? Les investigations, officiellement, sont toujours en cours, Ouda Ibrahim.
Un an après la catastrophe, l'enquête judiciaire piétine. Le budget alloué à l'entretien de deux barrages dominant la ville a été détourné, mais le procureur général libyen, en établissant la chaîne de responsabilité, n'est jamais remonté plus haut que le maire de Derna. 12 fonctionnaires travaillant à la mairie de la ville, à la structure de gestion de l'eau et des barrages ou à la banque centrale ont été jugés et écopent depuis janvier dernier de peines de prison allant de 9 à 27 ans. Aucun bilan officiel de victimes n'a été établie. Les autorités de l'Est libyen ont voulu minimiser les chiffres. Près de 5000 corps ont été identifiés et enterrés. 10 000 personnes manquent toujours à l'appel. Selon les estimations des experts libyens, le bilan pourrait en fait se situer entre 14 000 et 24 000 morts. Le chef du Parlement, Aguila Saleh, a alloué en février dernier au fonds de reconstruction de Derna l'équivalent en dinars de 2 milliards d'euros. Ce fonds a été confié à Belkacem, l'un des fils du maréchal Khalifa Haftar, non impliqué, lui, dans des activités militaires comme deux de ses frères.
Un processus judiciaire qui patine et qui explique cet appel d'ONG comme Amnesty International. Elle rappelle qu'il faudrait une enquête plus large, internationale, et qui dépasserait d'ailleurs le seul cadre de cette catastrophe. Bassam Alcantar est chercheur spécialiste de la Libye pour Amnesty International. Il s'en explique à Magali Lagrange.
Amnesty International appelle toujours à la mise en place d'un mécanisme international d'enquête sur la situation des droits humains en Libye. Et nous avons tout particulièrement lancé cet appel après la catastrophe de Derna. Nous pensons que c'est la seule façon de pouvoir faire toute la lumière sur les événements et sur les circonstances qui ont mené à ces décès et à ces destructions suite au passage de la tempête Daniel. Nous avons suivi la décision rendue par la justice libyenne et l'enquête menée par le bureau du procureur général. Mais nous sommes surpris de voir que seuls des fonctionnaires de niveau inférieur ou intermédiaire ont été traduits en justice. 12 des 16 personnes poursuivies ont été condamnées en juillet dernier. Pour nous, cela prouve encore une fois que seule une enquête et une juridiction internationale pourraient aboutir à la justice pour les victimes de Derna et pour tout le territoire de la Libye également.
Le chercheur spécialiste de la Libye, Bassam Alcantar, vous en retrouvez un dossier complet sur cette catastrophe de Derna sur notre site RFI.fr. L'actualité immédiate qui percute aussi cruellement cet anniversaire libyen, ça se passe au Nigeria avec ce barrage qui a lâché il y a un peu plus de 48 heures et dont les eaux ont englouti des dizaines de milliers d'habitations à Maïdougouri, en l'occurrence, dans l'état de Borno, dans le nord du pays. 150 000 personnes touchées. C'est ce que dit l'agence de gestion des catastrophes. Pas de bilan humain pour l'heure. Les écoles vont être fermées à travers cet état de Borno pour 2 semaines. Au titre encore de ces pluies et inondations exceptionnelles qui frappent une large partie de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée est bien loin d'être épargnée. 130 000 personnes affectées. Ce sont les chiffres de l'agence de gestion des risques. Ça fait un mois que les pluies de l'hivernage sont particulièrement violentes. 4 personnes au moins sont mortes sur l'ensemble du pays. Toute la Guinée est touchée par ces événements, Sidi Yansané.
4 décès et 1 porté disparu à ce jour, c'est le bilan avancé par l'Angouche, l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires. Hormis la région forestière, les pluies d'une violence rare ont laissé 20 000 ménages guinéens en détresse au niveau national. Maisons, routes, ponts inondés, glissements de terrain et même du bétail emporté par les flots. Le directeur général de l'Angouche, Lancey Touré, décrit une urgence humanitaire exceptionnelle.
On a fait le premier convoi humanitaire hier qui est rentré à Forêt-Caria. Parce qu'on a des centres d'accueil, les gens ne savent pas où dormir, donc on a réquisitionné les écoles. Et d'ici le jeudi, on est en train de travailler également pour envoyer 2 convois humanitaires pour Koya et la préfecture de Kourousa. Et en fonction de la trésorerie, on va essayer de faire ce qu'on appelle le cash transfer qu'on envoie à ces ménages impactés à l'intérieur du pays qui va leur permettre au moins d'assumer les dépenses pour la famille.
Mais au-delà des pluies intenses, le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée déplore le laisser-aller des autorités face à l'urbanisation anarchique. Bani Sidibé.
Les parties où on ne devait pas construire, les gens viennent faire des remblais devant les autorités, devant le gouvernement et personne ne lève le petit doigt. Que ce soit le titre foncier, que ce soit les papiers de donation, vous allez voir qu'il y a assez de contentieux au niveau du foncier, de l'habitat. Même si on dit aux autorités que c'est un domaine interdit de l'État, ils vont s'arranger à avoir les papiers. Et si l'État n'agit pas?
Selon l'Angouche, plus de 130 000 personnes sont actuellement affectées par ces inondations.
Sidi Yansané à 7h, bientôt 37 à Conakry. Même heure à Dakar et à Mbour, le Sénégal. Et cette première avancée dans l'enquête ouverte après le naufrage mortel d'une pirogue, le propriétaire de l'embarcation a été interpellé. Un certain Chersal, demi-frère par ailleurs du maire de Mbour, il se serait rendu de lui-même à la police avant-hier soir, selon le préfet Amadou Diop. On rappelle que 36 corps sans vie ont été récupérés par la marine sénégalaise. L'embarcation a chaviré dimanche après avoir quitté Mbour en direction de l'archipel espagnol des Canaries. 24 personnes ont pu être retrouvées, mais la pirogue transportait sans doute 150 passagers. Et puis Idrissa Sankaré, qui est libre au Mali, l'ancien député de Bankass dans le centre du pays, a été relâché et a pu rentrer chez lui hier matin. Idrissa Sankaré est aussi une figure de l'organisation Tabital Poulakou qui défend la culture et les droits des peuples peuls en général, selon nos informations. Il était détenu depuis la mi-août, en dehors de toute procédure légale, par les services de la sécurité d'État. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats hier encore entre les rebelles du M23 et les Wazalendo. Ces affrontements ont été signalés dans le territoire de Masisi, sur l'axe entre Kaniro et Kisuma. La RDC et le sort de Delcat Idenko. L'artiste a été transféré hier dans la prison de Kangbay, selon la section de Beni de la Lucha. Il avait été arrêté fin août par les services de sécurité congolais lors d'une manifestation pacifique qui exigeait le départ de la MONUSCO, mission des Nations Unies en RDC. Le pays, la Belgique et le début d'un procès en appel à Bruxelles dans le combat dit des métis de la colonisation. Ces femmes qui se battent pour que soient reconnus les traitements qui leur ont été infligés quand elles étaient enfants. Elles et ces milliers d'autres nées d'une mère africaine et d'un père européen arrachées à leur maman au moment de la décolonisation. Elles avaient été déboutées en première instance face à l'État belge, mais leur demande dépasse largement le simple cadre d'une réparation puisque Pierre Benazet, leurs avocats, plaident le crime contre l'humanité.
Pour les avocats de l'État, la Belgique de l'époque coloniale finissante considérait indispensable de retirer les enfants métis à leurs mères africaines car l'abandon par leur père européen les mettait en danger. Monique Bitou a été enlevée à sa mère à 4 ans. Selon elle, aucun métis de la colonisation ne s'est vu offrir une éducation.
Je ne sais pas ce que l'avocat appelle meilleure éducation, parce qu'on était là dans un centre. Les grandes filles s'occupaient des petites filles. On allait dans le même classe avec tous les autres enfants du village. On ne portait pas de souliers, on marchait pieds nus, on mangeait encore plus mal que les enfants du village. Alors quelle est l'éducation qu'on nous a donnée plus que les autres?
Pour les avocats de l'État, la Belgique se comportait comme toute puissance coloniale de l'époque, mais selon maître Michel Hirsch, les procès Roucha, après ceux de Nuremberg, avaient déjà établi les enlèvements d'enfants comme crime contre l'humanité.
Nous avons étayé une politique menée par l'État belge durant la colonisation qui était vraiment une politique d'horreur visant à éliminer les métis en s'en prenant aux enfants et en s'en prenant aux enfants dès leur plus jeune âge, d'une manière systématique, organisée, qui impliquait en réalité tous les organes de l'État.
Les juges de la Cour d'appel rendront leur arrêt d'ici début décembre. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1,3 tonne de poulpe ramassée en 2 jours et la fin de ce journal avec ce chiffre. peut-être abstrait, mais qui compte beaucoup pour les pêcheurs malgaches. Dans le sud-ouest de la Grande Île, des années d'initiatives pour préserver la ressource marine portent enfin leurs fruits. Ça fait 15 ans que les pêcheurs locaux ont mis en place des règles, des heures et des périodes de pêche précises, des outils autorisés et d'autres qui ne le sont pas. Ils voyaient bien que les prises étaient de plus en plus maigres. Et aux surprises, les mesures fonctionnent, Sarah Tetto.
Samson embrasse des yeux le lagon devant lui. De ses eaux, le pêcheur tire l'essentiel de ses revenus. Depuis 2010, lui et les siens ont accepté de participer à la grande aventure des aires marines localement gérées. Et cette année, le résultat est incroyable.
On est très content parce qu'on a récolté 1300 kg de poulpes en deux jours contre 900 kg les années passées. C'est la première fois qu'on atteint une telle quantité. Selon moi, c'est dû au fait qu'on a patrouillé, même la nuit, pour surveiller la zone. On a vraiment fait beaucoup d'efforts pour protéger notre réserve de pêche.
Tous se sont mis d'accord sur des règles de base à appliquer. À Nusivanjuk, par exemple, les pêcheurs ont décidé d'interdire les tarques, sorte de gros filets que l'on tire à partir de la plage et qui raclent les fonds en portant tout sur leur passage. Enfin, les pêcheurs ont également acté de fermer temporairement des zones de pêche pour permettre la régénérescence des espèces. Ce changement, on le doit au ministère de l'économie bleue et à des ONG qui œuvrent dans la conservation, comme WWF, pour laquelle Dumuin Rakotmalal travaille en tant que coordinatrice des activités marines.
Ça fait des années qu'on sensibilise sur la raréfaction des ressources de pêche et qu'on éduque aussi sur une meilleure gestion des ressources. En fait, ce changement de comportement pour mieux gérer, c'est aussi parce qu'il y a un gain économique au bout. Nous, WWF, on facilite la mise en relation des communautés de pêcheurs avec les privés qui vont assurer l'achat des produits de la pêche.
Des débouchés économiques cruciaux qui font de cette gestion locale des aires marines la principale motivation des pêcheurs. Sarah Tetto, Antananarivo, RFI.
Antananarivo, il est 10h42, Nathalie.